Les jardinières.
Salut tout le monde et bienvenue dans les jardinières. Alors ce week-end, la fraîcheur est de retour, mais qu'importe, nous on jardine qu'il pleuve, qu'il vente et au moindre petit rayon de soleil. Alors quand je dis on, c'est bien évidemment en compagnie de ma chère collègue jardinière, Sophie, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver ce matin. Et sans lui, on ne pourrait pas répondre à toutes vos questions. Jusqu'à 8h, nous sommes avec Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Nous sommes le 27 avril, dernier samedi du mois, et pour l'occasion, on répond à toutes vos questions jardinage, comme tous les samedis d'ailleurs. Quels légumes planter en ce moment? À quelle fréquence arroser vos plantes intérieures? Toutes vos questions trouveront réponse grâce à Jean-Pierre Ribaud.
Des questions auxquelles il peut vous répondre en direct. Pour ça, vous composez dès maintenant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire un SMS en inscrivant le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Et vous envoyez le tout au 939. Ou encore, il y a toujours le formulaire présent sur nos sites internet sous l'onglet questions jardinières.
Ben voilà, les dés sont jetés. Les jardinières, c'est parti.
Les jardinières. Sophie et Stéphanie.
Alors on va commencer par une question qu'on avait reçue la semaine dernière par SMS de la part de Chantal de Bienne. Elle a une plante de romarin de 50 cm de haut et 20 de large. Elle voudrait la mettre dans un pot de 80 sur 80 sur 100 cm. Est-ce qu'il va encore grandir ce romarin? Jean-Pierre, on attend votre avis.
Bonjour Chantal. Oui, effectivement, ce romarin va encore se développer. C'est important de prendre les mesures particulières à la transplantation ou la mise en pot de votre romarin. Ça veut dire au niveau du substrat terreux que vous choisirez pour mettre dans le pot. Il faudrait prendre un substrat qui est adapté à une situation un petit peu sèche, aride, parce qu'on sait que les pots durant l'été, ils souffrent énormément de la température et du manque d'eau. D'autant plus si vous avez un pot qui est en terre cuite, ça compliquera encore un peu plus le problème de l'humidité. On sait aussi que le romarin est une plante qui supporte très très bien les espaces secs, mais quand même. Donc, pour la transplantation ou la mise en pot de votre romarin, choisissez un super terreau de bac et terrasse que vous trouverez dans les grandes surfaces. N'oubliez pas de lui mettre un engrais de longue durée qu'on trouve également dans les grandes surfaces. Là, vous trouvez des engrais qui se libèrent au niveau des éléments nutritifs sur une durée de 6 à 8 mois. Donc à cette période, ce serait l'idéal de prendre au plus long, étant donné que la période végétative va durer jusqu'au mois d'octobre, voire même novembre. Et puis évidemment, un super arrosage durant l'été, pas l'oublier. Quant au reste, votre romarin va continuer de se développer à merveille.
Merci Jean-Pierre. La prochaine question nous vient de Janine. Elle nous parle de doucette. Elle aimerait faire pousser de la doucette et elle aimerait savoir si c'est possible. Si oui, comment s'y prendre? Comment prendre soin de cette plante? Et parce qu'elle a entendu dire que c'est compliqué. Alors du coup, elle stresse un petit peu, notre Janine.
Oui, bonjour Janine. Mais non, c'est pas très compliqué. Ce qui est en fait le point sensible du développement de la doucette, c'est lors du semis, la mise en place. Alors c'est vrai que maintenant, on trouve facilement dans les grandes surfaces des mini-mottes qu'on arrive à acheter au niveau doucette, que vous arrivez à planter facilement dans votre potager. Et puis si vous pratiquez de la sorte avec de la mini-motte, n'oubliez pas de ne pas la planter trop profond. Vous avez plutôt tendance à devoir un peu la buter au niveau de votre carré de potager. L'avantage de la buter, c'est que votre doucette, elle ne sera jamais très sale, elle sera toujours très très propre. Puis lors de la récolte, vous n'aurez pas toute cette terre, tout cet amalgame de matériel qui est indésirable dans cette salade. Maintenant, si vous préférez vraiment la semer, alors je dirais qu'on n'est pas forcément dans une super période maintenant, parce que la doucette est plutôt une plante d'automne, on va plutôt la mettre en place au mois de septembre-octobre. Vous pouvez quand même tenter l'expérience maintenant, mais il faudrait, au niveau de la mise en place, semer sur un substrat qui est assez affiné. Une fois que vous l'avez semé, il faudrait juste un petit peu compacter avec une petite taloche ou une truelle ou un bout de plant, juste pour un petit peu compacter le sol pour amener l'humidité au niveau de la semence. Vous pourriez aussi la bâcher avec un flim, un sac en jute, je précise, pas un plastique. Enfin, une petite couverture pour l'ombrer et tenir l'humidité constante pendant 3-4 jours. Et puis après, au niveau germination, si vous avez réussi cette opération-là, pour le reste, ça va se développer à merveille. Mais encore une fois, il est vraiment plus facile d'acheter la mini-motte en grande surface et la planter, la buter, que de faire le semis, parce que c'est vrai que le semis est quand même un petit peu compliqué, même au niveau professionnel, de temps en temps, on arrive à les rater.
Et en tout cas, oui. Mais en tout cas, au prix où ça coûte dans les magasins la doucette, on a meilleur temps de la faire pousser. Hein.
Ah, c'est vrai. Puis la mâche est une excellente salade.
Ouais, donc, c'est délicieux, ça c'est sûr. Mmh. Eh ben merci Jean-Pierre Ribon. On va faire une petite pause musicale. Évidemment, on vous retrouve tout à l'heure. Hein. Restez bien avec nous. 0 900 70 20 20, c'est le numéro à composer pour poser votre question. Là, maintenant, à Jean-Pierre, il est en direct. Il vous répond tout ce que vous voulez. À question jardinage, bien sûr. Sinon, il y a toujours le SMS 939 jardin, un espace et votre question le plus détaillée possible.
Les jardinières.
Et c'est Guillaume qui nous a écrit pour nous dire qu'il a mis des plants de tomates sous sa serre depuis quelques jours, mais vu les températures douces, il a l'impression qu'il fait trop chaud. Enfin, quand il nous a écrit cette semaine qu'il faisait trop chaud dans la serre, certains plants de tomates commencent à jaunir, voire flétrir pour d'autres. Hein. Ils sont dans des bacs avec de l'eau. Il précise que c'est un arrosage automatique. Alors pourquoi est-ce qu'ils jaunissent, Jean-Pierre ?
Oui, bonjour Guillaume. En fait, je pense que vos plants de tomates, ils sont quand même un peu trop arrosés. C'est le phénomène du bac que vous avez au niveau de ce système automatique d'arrosage. C'est en tout cas pas la température qui va vous les faire jaunir, parce que la tomate, elle est vraiment du sud et puis elle adore cette température. Et puis on peut pas dire qu'il a fait des températures caniculaires pour arriver à tempérer une serre trop chaude en cette période. Ce qu'il vous faut faire, c'est enlever ce bac dans lequel il se trouve. Et puis simplement les arroser une fois ou peut-être deux par jour, mais en ayant un écoulement naturel du surplus de l'humidité par le fond du pot. Parce que la tomate n'est en tout cas pas une plante qui supporte d'être dans une humidité constante. C'est uniquement là le problème. Après, d'ici 10 jours, vous allez tout de suite pouvoir les implanter dans le potager. Ce sera nettement plus facile. Si vous avez peur des froids, des derniers froids qui peuvent encore arriver avant les saintes glaces, eh bien vous pouvez encore les protéger avec une feuille de journal ou quelque chose comme ça durant les nuits que vous pressentez froide, puis après vous aurez plus de soucis.
Jean-Pierre, à part les tomates, qu'est-ce qu'on peut mettre sous serre juste avant la saison chaude, enfin la saison printanière, on va dire ?
Oui, bien à peu près tous les légumes qu'on a envie de forcer, ça veut dire qu'on a envie d'activer le développement pour avoir une récolte plus rapide au niveau du potager dans le temps. Ça veut dire que tout ce qui est plantons qu'on arrive à trouver même maintenant dans le commerce, hein, vous pouvez acheter des choux, des salades, une ribambelle de légumes. Si vous voulez les forcer un peu, donc activer ce développement pour gagner presque 3 semaines, 1 mois de récolte dans le mois de juin, juillet, août, eh bien, vous pouvez les mettre déjà maintenant dans votre serre. Alors évitez justement de les mettre dans des bacs où il y a trop d'eau restante, parce que c'est en général des légumes qui n'apprécient pas du tout cette situation. Et puis, dès les beaux jours, vous les reprenez, vous les remettez dans votre potager. Et puis là, vous êtes garanti d'avoir gagné en tout cas 15 jours, 3 semaines de récolte. Quoi. C'est cool.
Merci Jean-Pierre. Je rappelle donc que vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Vous pouvez poser vos questions soit par SMS au 939 ou par téléphone au 0 900 70 20 20. On revient après une petite pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Et Sophie, quelqu'un a composé le 0 900 70 20 20. Hein, vous avez quelqu'un en ligne?
Oui, c'est Werner de Moutier qui est avec nous pour vous poser une question. Jean-Pierre, bonjour Werner.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, on écoute votre question. Alors,
j'ai une question. Voilà, j'ai des cotonnières autour de la maison et ils sont pleins de mousse. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour enlever cette mousse ?
Oui, la bonne solution, ce serait carrément de tous les supprimer, parce qu'on sait que le cotonnière est une plante hôte du feu bactérien. Je pense que vous connaissez la maladie.
Exactement,
un peu.
Exactement, oui.
Ok. J'imagine aussi qu'il y a de temps en temps des contrôles au niveau cotonnal qui passent pour s'assurer qu'il n'y a pas de feu bactérien sur vos talus. Après, simplement au niveau de la mousse, je pense que vous êtes dans un terrain qui est plutôt maigre, qui est plutôt pauvre. Et puis, le cotonnaster qui n'arrive pas à se développer assez vite par rapport à la prise de la mousse sur son tronc, favorise cette mousse. Alors bon, est-ce qu'elle est vraiment négative, cette mousse ? Non. Elle signale simplement que vous avez un substrat qui est très très pauvre au niveau de votre talus, et puis que vos cotonnasters ne se développent pas à merveille. Si vous voulez supprimer ce phénomène, avec un apport d'engrais ou un mulchy de compost ou quelque chose comme ça, eh bien, vos cotons astères vont se développer, vont prendre du diamètre au niveau du diamètre des branches, des ramifications. Et puis automatiquement, eh bien, cette mousse qui s'agrippe sur ce calibre actuel, eh bien, elle va se trouver disloquée et puis elle va gentiment disparaître. J'imagine aussi que votre talus il est plutôt ombragé et puis pas très plein sud. Mais,
Oui,
mais là n'est pas vraiment le problème. C'est surtout un problème de substrat. Je pense que c'est très très pauvre, il ne pousse pas énormément. Mais après, en tant que professionnel... En tant que professionnel, et puis au niveau cotonal, au niveau campagne d'arrachage, je vous conseille plutôt de mettre une pervenche, une valsitania ou des fraisiers tapissants. Ce serait plus joli et plus écologique. Voilà.
Je suis d'accord avec vous. Donc le mieux, c'est de rien mettre et de les laisser gentiment s'en aller. Quoi.
Alors oui, ou bien alors si vous ne voulez pas faire trop de frais ou être très écologique au niveau d'un apport quelconque, un mulchi de terreau, de compost que vous trouverez dans les compostières. Simplement, si vous mettez du compost, vous garantissez qu'il ne soit pas de température, parce que sinon, il va vous faire beaucoup de dégâts. Il faut qu'il soit froid. Et puis, s'il est froid, vous pouvez en mettre 4-5 cm d'épaisseur, malgré tout la couverture actuelle. Le coton astère va arriver à survivre et ressortir de ça. Puis le compost va vous amener un super rapport et d'humus et d'humidité.
D'accord. Je vous remercie beaucoup.
Volontiers. Bonne journée.
Une bonne journée et un
bonne
bon week-end.
Journée.
Merci,
bon week-end.
Merci à vous aussi, bon week-end.
Merci bien.
Voilà, si vous voulez faire comme Werner, 0 900 70 20 20, ça coûte 36 centimes la minute. Et puis Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, répond volontiers à toutes vos questions. On va faire une petite pause, Sophie, avec un petit point météo, également inforoute. Puis on se retrouve tout à l'heure.
On se retrouve tout à l'heure, on sera toujours là.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
Ben oui, de retour dans les jardinières, Jean-Pierre Ribaud, Sophie et moi, on est au taquet ce matin pour vous faire passer un agréable réveil sous le signe du jardin. Notre paysagiste à Queuve s'affaire à répondre à toutes vos questions. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
Et vos questions, vous pouvez les poser en composant le numéro de notre standard téléphonique, le 0900 à 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Mais on lit également vos SMS et vos formulaires. Pour rappel, il vous suffit d'indiquer le mot « jardin » au début de votre SMS, laissez un espace puis taper votre question et vous envoyez le tout au 939. Et je rappelle que vous avez encore jusqu'à 8 heures pour poser toutes ces questions qui taraudent votre esprit de jardinier amateur.
Et nous avons quelqu'un en ligne, Sophie.
Alors, malheureusement, pas tout de suite. Du coup, je vous propose de prendre la question de notre fidèle auditeur de Mervelier.
Ce fidèle auditeur de Mervelier a une question très pertinente. Alors, il avait un petit érable depuis 3 ans qu'il avait payé assez cher, apparemment. Au fil du temps, il a commencé à dépérir ce petit érable et il a complètement séché. Après l'avoir enlevé, il a remarqué que le sol était marneux, où l'eau ne s'écoule pas. Donc, il a testé en fait en versant le contenu d'un arrosoir à l'intérieur. On peut donc en déduire que les racines du petit érable ont pourri. La question de notre auditeur est donc de savoir par quel arbre décoratif il peut remplacer son érable dans ce terrain tout de même assez particulier. À savoir, Jean-Pierre, que l'emplacement est à côté d'un abri pour voiture, recouvert de cailloux décoratifs et plutôt à l'abri du soleil. Alors notre auditeur a envoyé une photo que nous vous avons montrée. Alors quel conseil vous pouvez donner à Jean-Pierre Ribaud ?
Oui, alors cher auditeur, effectivement, la photo que j'ai sous le micro présente une situation hyper ombragée à l'arrière de votre garage. Il est vrai que votre érable, il ne pouvait en tout cas pas survivre à cet espace pour deux raisons. De par la photo, avec l'humidité qui reste dans le trou, de cette poche de marne. Et puis d'autant plus que l'érable, c'est une plante qui supporte pas trop les sols calcaires. Ça veut dire qu'à la plantation, il aurait fallu lui mettre une bonne adjonction de tourbe, presque un moitié-moitié tourbe, moitié terre. Et puis le mettre dans un espace où il y avait une perméabilité du sol qui était raisonnable. Là, dans votre espace, il vaudrait quand même la peine, vous connaissez certainement l'historique de votre sol, si c'est un remblai par rapport au garage qui a été mis en place et puis que c'est une épaisseur de couche de marne qui peut être de 50 ou 80 cm d'épaisseur, et puis en dessous vous retombez sur le terrain naturel, ça vaudrait la peine avec une barabine, une tige métallique, de perforer cette épaisseur de marne pour que cette eau puisse s'infiltrer naturellement dans le sous-sol, parce que sinon ce sera compliqué de faire vraiment se développer une plante qui supporte autant d'humidité. On n'a pas une plante mi-eau, mi-sol, un nénuphar ne peut pas aller parce que vous n'avez pas assez d'eau, et puis une autre plante ne veut pas supporter cet excès d'humidité. Après, au niveau de l'espace, ce qui serait super, je pense, si vous arrivez à enlever cet excès d'humidité, Avec une bonne poche de tourbe, vous pourriez lui mettre un azalée, un rhododendron, un hortensia ou quelque chose comme ça. Et puis sinon, dans les plantes décoratives, il y a aussi les cornus. Dans les cornus, vous les trouvez des super plantes qui supportent bien cet espace-là. Ou alors dans les houes. Enfin, il faut trouver un arbuste qui supporte vraiment le mi-ombre à ombre dans les sols frais. Voilà.
Et justement, bah c'est fou, hein, cette impression de sol qui garde comme ça l'humidité.
Mais on rencontre fréquemment ce genre de situation dans les aménagements extérieurs, parce qu'au niveau des remblayages, dans les nouvelles constructions, bien sûr, ils remblaient avec les substrats qu'ils ont au niveau des terrassements. Et puis, en plus, il est compact, avec des machines qui sont assez puissantes. Et puis, on arrive à des couches d'épaisseur qui sont complètement étanches et puis qui nous posent souvent ce genre de problème. Alors, il est aussi évident qu'on ne peut pas toujours le voir à la plantation. De temps en temps, quand on fait une plantation en tant que professionnel, on se rend compte que de l'eau dort sur les sols et puis on essaie de prendre des mesures préventives par rapport à ça. Mais on ne peut pas en vouloir aux professionnels qui ne le voient pas, parce que si on est en plus sur une période très sèche, vous n'aurez en tout cas pas ces phénomènes et puis vous allez le découvrir plus tard.
Merci Jean-Pierre Ribaud. On a pas mal de questions ce matin, notamment quelqu'un qui est en ligne, c'est Thierry, n'est-ce pas Sophie ?
Exactement, il a une question concernant des asperges. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Oui, alors j'ai une question concernant les asperges. Je les ai plantées au printemps passé, et puis durant la saison, elles sont devenues des tiges, une sorte de bois comme ça, puis elles ont fait des fruits rouges. Et puis cette année-ci, j'ai déjà des asperges vertes là, qui sortent, là, puis qui sont 20-30 cm de hauteur.
Oui.
Je voulais savoir si je pouvais les prendre ou bien pas.
Alors oui, bien sûr.
J'ai lu à gauche, à droite, que certaines fois, on ne pouvait pas les prendre, que la deuxième année, il fallait les laisser pour refaire quelque chose.
Mais non. Voilà. Non, je pense pas. Peut-être dans une culture intensive, le grand producteur va peut-être renforcer vraiment son rhizome au niveau de l'asperge pour avoir une super production l'année d'après. Mais en tant que privé, vous n'avez pas de risque d'appauvrir vraiment le rhizome que vous avez mis en place l'année passée. Après, c'est les vertes vertes. Après, c'est dommage, il aurait fallu la buter ou l'ombrer pour l'avoir un peu plus jaune et tendre. Mais après, c'est à chacun son deal, quoi. Mais vous pouvez les prélever.
Oui, mais alors, j'en ai mis une trentaine, là, puis j'ai un tiers, justement, qui c'est des vertes, là.
Oui.
Puis les autres, je les ai butées, donc voilà. Les butées ne sont pas sorties, alors voilà.
Oui, et bien c'est merveilleux.
Les vertes sont déjà sur... Oui, voilà.
Oui, oui. Non, pas de problème.
Mais les vertes sont bien vertes, justement, puis elles sont sur pied, puis elles font à peu près une trentaine de centimètres, elles ont la bonne longueur, je pense, maintenant, pour les couper et puis les prendre.
Oui.
Mais les blanches, justement, je les ai butées pour... parce que j'ai aussi lu... Il fallait les buter pour qu'elles restent blanches, c'est un peu l'idée. Hein,
effectivement, c'est uniquement une question d'ombrage, donc par de la sure, par du terreau, par un sac de jute ou quelque chose comme ça. C'est la nuit qui va vous la jaunir et vous la rendre très tendre. Si vous avez une asperge qui se développe au niveau de l'atmosphère, eh bien elle va venir verte et puis elle sera nettement moins tendre. Voilà.
D'accord, ok. Alors c'est tout bon. Merci beaucoup pour les informations.
Merci à vous.
Et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Merci, au revoir.
Bon week-end, au revoir.
Merci en tout cas à Thierry d'avoir appelé, d'avoir composé ce 0 900 70 20 20. Vous pouvez le faire encore, à vous qui nous écoutez ce matin. Il est 7h42, vous avez encore une bonne dizaine de minutes pour composer ce numéro, ou alors pour tout simplement nous envoyer un SMS au 939 jardin un espace et votre question. Et puis Sophie, on a encore des questions que nous n'avons pas encore traitées.
On a encore une auditrice qui nous appelle en ce moment. Est-ce que vous êtes avec nous ? Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Maria.
Bonjour. Bonjour, Maria.
Écoutez, j'ai un petit souci avec des laurels. J'ai une haie assez grande avec à peu près, je pense, 200 laurels que j'ai plantés il y a quelques années. Je trouve qu'ils peinent beaucoup, beaucoup à pousser. Et ensuite, maintenant qu'ils ont un peu poussé enfin, je trouve que les feuilles, elles sont rongées. Elles ont comme des trous, comme des dentelles. Je pense qu'il doit y avoir un parasite, mais j'arrive pas à le trouver. J'ai déjà traité et je sais pas trop ce qu'il faut faire en fait. Parce que dès qu'elles poussent, elles sont toutes belles et quelques mois après, ça y est, les trous sont là.
Oui. Alors si c'est des trous qui se trouvent sur le pourcentage de la feuille ou si c'est des trous qui sont sur l'extérieur de la feuille, il y a une différence. Si c'est sur les bords de la feuille, en fait, le parasite, c'est un otorynque. C'est un petit coléoptère qui passe sa journée dans le sol. Et puis la nuit, eh bien, il monte sur vos lauriers. Et puis il grignote les abords de vos feuilles, ce qui crée cette dentelure sur le pourtour de la feuille. Si c'est ça que vous avez comme problème, c'est celui-là ?
Je crois parce qu'on en avait déjà parlé, puis on nous avait dit qu'il y avait quelque chose voilà, qui se passait au niveau, pendant la nuit.
Oui, alors c'est vraiment oui. sur le bord de la feuille, c'est pas à l'intérieur de la feuille.
Mais je crois que c'est ça, j'ai un doute maintenant, mais je crois que c'est ça, oui.
Vous jetez un coup d'œil une fois sur les feuilles, vraiment pour savoir si c'est une attaque vraiment extérieure ou autour de la feuille.
Oui, ben je
si
suis en train de les regarder, je suis dehors, c'est ça. Oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est tout, en fait, ça fait des dentelles, oui.
Donc si c'est ça, c'est l'othorynque. Et puis on a une lutte biologique par rapport à ce coléoptère. Il faut acheter dans le commerce des nématodes. C'est un petit insecte positif, bien sûr, pour nous, qui va combattre cet othorynque et puis qui va diminuer le pourcentage des parasites actuels. Alors, vous n'allez pas arriver à l'éradiquer complètement, le diminuer, d'accord. Vous allez y arriver. Très certainement que votre haie, elle se trouve dans un endroit plutôt frais aussi, puis pas très, très ensoleillé, parce que l'othorynque, c'est un parasite qui apprécie plutôt l'ombre, le frais. Vous ne voulez jamais le trouver sur une surface très exposée, plein sud, aride et sèche. Il ne va pas supporter cette situation-là.
D'accord. Et puis ça se trouve dans des commerces spécialisés, j'imagine.
Oui, alors dans les grandes surfaces, vous devriez arriver à les trouver. Et puis sinon, par le biais de professionnels, vous arriveriez à... Je ne peux pas donner le nom du commerçant du parasite là, mais sinon, hors ligne, pas de souci. Et puis, okay. Simplement, si au niveau de la pousse, si vous avez une haie qui ne se développe pas énormément, vous voulez avoir d'autant plus d'attaques d'othorynques. Donc, mettez un peu d'engrais ou de mulchi ou quelque chose comme ça, pour que votre haie se développe nettement mieux et puis vous voulez avoir moins de problèmes d'othorynques, c'est aussi évident. Parce qu'il faut savoir que les parasites, ils attaquent toujours des plantes qui sont plutôt faibles et chétives et puis jamais des plantes qui sont hyper robustes et vigoureuses.
D'accord. Ok. Ben j'espère qu'elles reprendront. En tout cas, merci beaucoup pour vos conseils.
C'est gentil. Merci à vous.
Merci d'avoir
très bien. Bonne journée. Au revoir.
Bonne journée.
Merci. Au revoir. Merci.
Nous avons reçu un SMS de Pierre, mais on va écouter un petit coup Vanessa Paradis hein, tout de suite avec ce titre Divine Idylle. Et puis Pierre, on traite votre SMS d'ici 2 minutes et demie.
Les jardinières.
Et comme annoncé, on va traiter le SMS de Pierre. Donc maintenant, il nous demande « En cas de canicule, peut-on utiliser les eaux usées non traitées d'une fosse septique pour arroser des arbres fruitiers ou des tuyas ?»
Bonjour Pierre, bonne question, oui bien sûr, cela est selon la fosse septique que vous avez. Si vous aviez un ancien bâti avec une fosse septique à l'époque qui était fonctionnelle, et puis que vous avez fait un raccordement direct maintenant, et puis que vous avez gardé cette fosse pour faire une rétention d'eau, aucun problème bien sûr, on s'est compris. Simplement elle sera peut-être un peu froide cette eau quand vous l'arroserez, vous l'utiliserez durant les canicules. Alors le mieux, c'est peut-être faire un arrosage au sol, bien sûr, pas aller mouiller le feuillage, parce que cet écart de température peut poser un peu souci. Mais après, pour le reste, ça reste de l'eau, d'autant plus si ça fait quelques années que vous avez, j'imagine, des arrivées d'eau de chenaux dedans, et puis un trop-plein, puis qu'elle repart, et puis que ça a lessivé un peu cette ancienne fosse septique. Aucun souci, de l'eau reste de l'eau. Et puis, hormis le problème de température, pour le reste, vous pouvez l'utiliser sans souci. C'est aussi vrai, je dois juste préciser, par rapport à cette haie de tuya dont vous parlez, dramatiquement, là on est début mai, et puis on a encore vécu des situations catastrophiques de haies en février et mars cette année, où des parties de haies entières ont desséché, se sont détériorées par un manque d'humidité printanière. Il faut savoir que le tuya, c'est une plante qui n'apprécie pas du tout l'eau dormante, mais qui n'adore pas du tout les périodes très très sèches sur des angles de talus ou des espaces trop sèches. Donc, pour tous les propriétaires de tuyas qui ont des dégâts dans vos tuyas, ne posez pas la question, c'est uniquement des problèmes d'humidité, un manque d'arrosage, un hiver trop sec, et puis des dégâts qui sont évidents maintenant. Et puis d'autant plus, le drame, c'est que quand on voit le dégât, eh bien c'est vraiment trop tard, vous ne pouvez plus rien faire si ce n'est que de remplacer le tuya, soit par du tuya ou évidemment par d'autres éléments de haie plus intéressants, je pense.
Voilà. Donc arroser, ça ne servirait à rien, c'est trop tard.
Du moment qu'on voit le dégât sur le tuya, le dégât il est déjà trop tard, puis vous ne pourrez pas récupérer votre tuya, oui.
Eh ben merci Jean-Pierre pour toutes ces réponses, notamment à cette question de Pierre qui nous écrivait au 939. Je vous rappelle, vous pouvez encore le faire. Quelques minutes pour poser votre question jardinage à Jean-Pierre Ribaud, notre paysagiste à Queuve. 939, le mot jardin, un espace et votre question, ou alors le 0901 70 20 20. Puis on a reçu une question de Corinne qui a acheté des plantes fraisiers. Par contre, elle a dû attendre une semaine avant de les planter. Résultat, ces fraisiers, eh bien, ils sont fanés, les feuilles sont sèches. Est-ce que vous pensez que c'est fichu? Est-ce qu'il y a un moyen de les faire repartir? Est-ce que vous avez un petit astuce pour ces fraisiers de Corinne, Jean-Pierre?
Oui, bien sûr. Bonjour Corinne. En fait, vous avez peut-être une chance de les récupérer. Ce serait de les bassiner, ça veut dire que vous prenez vos fraisiers, vous les immergez carrément dans un bidon d'eau pendant une heure pour regorger d'eau cette masse de terre qui s'est complètement séchée. Et puis après, les planter. N'oubliez pas de les arroser un petit coup quand même. Et puis après, ce sera le hasard qui fera oui, ils repartent ou ils ne repartent pas. Ça dépend du dégât que le sec aura occasionné sur la nouaison du fraisier. Que vous ayez les feuilles qui soient sèches, ce n'est pas grave. Par contre, si vous avez du dégât au niveau des collets, c'est beaucoup plus grave. Et puis là, peut-être vous aurez de la casse. C'est uniquement à la plantation que vous allez le découvrir.
Merci Jean-Pierre pour cette réponse. On va enchaîner avec de la pelouse. C'est anonyme comme question. Après la tonte, j'ai vu que ma pelouse était pleine de trous et ce n'est pas très esthétique. Pouvez-vous me dire quel est le meilleur moment pour replanter du gazon? J'ai entendu dire qu'il fallait le faire avant la pluie.
Oui, alors effectivement, ça dépend. La question elle est un peu évasive. Ces trous que vous observez dans votre pelouse, alors j'imagine que c'est des trous qui sont dégarnis au niveau de la surface feuillée de la pelouse. Et puis, pour réensemencer ces surfaces-là, effectivement, il faudrait faire une tonte très basse pour nous laisser un certain temps de germination sur la semence que vous allez mettre en place jusqu'à la tonte d'après, parce que sinon, ces vilaines tondeuses, elles ont aussi pour habitude d'aspirer, d'autant plus si vous avez une tondeuse traditionnelle et puis pas une automatique. Elle va aspirer justement les semences que vous aurez mis en place, et puis si elles ne sont pas assez racinées dans ces espaces, eh bien la semence va finir au compost. Alors après, effectivement, ça vaudrait la peine, si vous avez un sursemis à faire, de mettre également un engrais pour favoriser et l'enracinement et la pousse rapide de ces semences que vous mettrez en place. Ça va aussi faciliter le talage de la pelouse actuelle que vous avez, parce que s'il y a des trous, c'est certainement un problème de qualité de terre, et puis votre pelouse n'est pas très très riche, donc pas très dense. Et puis un arrosage évident, et puis alors la tonte d'après, attendez vraiment le dernier des derniers des délais pour favoriser un maximum cet ensemencement, pour ne pas aspirer et l'engrais que vous aurez mis en place. Mais là j'imagine quand même que vous aurez soit pratiqué un arrosage, soit mis ça en place avant une bonne pluie. Et puis pour ne pas aspirer cette semence qui sera en germination. Et puis voilà.
Merci Jean-Pierre d'avoir répondu à ces questions ce matin. On a encore une petite question, on a encore quelques secondes pour revenir sur la situation générale. Eh ben, on est quand même le 27 avril et oui. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment au jardin, quel est le plus important avec un peu ces changements de température.
Oh, il y a tellement à faire dans le jardin qu'il faut commencer dans un bout et puis finir à l'autre. Mais dans les priorités, bien sûr les tontes, les scarifications, les sursemis, les dernières plantations. On est déjà trop tard pour ce qui est des plantations, des arbustes racines nues, rosiers racines nues, toutes ces choses-là. Il faut les éviter maintenant, on est beaucoup trop tard. Les mises en place d'engrais. Vous voulez avoir tout de suite les premières attaques de parasites, bien sûr, rosiers, les tailles, ça doit être fait déjà 15 jours, 3 semaines en tout cas, donc vous voulez avoir les premières maladies, les premiers pucerons. Dans les potagers, bien sûr, et dans les starting blocks, parce que là vous avez déjà bêché, la terre est quasi affinée, les premiers plantons sont mis en place. En fait, c'est la période où tout donne pour nous.
Oui, c'est la période la plus active.
C'est le plein boom.
C'est le printemps.
C'est merveilleux.
Mais voilà, le clocher va bientôt sonner 8 heures, l'heure de nous dire au revoir et de vous remercier pour toutes vos questions. Également, un grand, grand merci à vous, Jean-Pierre Ribaud, notre paysagiste professionnel. Vous vous êtes levé à l'aube ce matin.
Mais
merci.
Non, on a l'habitude, on est des matinaux, non souci. Merci à tout le monde.
Eh bien, merci. Belle journée, à très bientôt.
Les jardinières reviennent évidemment comme d'habitude samedi prochain pour un nouveau rendez-vous jardinage. Nous serons accompagnés de Philippe Détra, notre horticulteur bio. Et si vous avez déjà des questions que vous n'avez pas osé poser ce matin, eh bien vous pouvez le faire dès à présent par SMS au 939 ou alors grâce au formulaire que vous trouvez sur nos sites internet, et elles seront traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Excellent week-end à tout le monde.
7h, 8h. les jardinières.